11h05, bon dimanche matin. Salut Mélanie.
Salut Jeffrey.
Aujourd'hui, notre question, avez-vous peur d'aller trop vite en affaires dans le marché actuel? Parce que ça va vite. Rappelons les faits, là. Comment ça se passe en ce moment quand tu visites une maison? Déjà, ça, c'est très éloquent.
Ça va très vite. Ça va vite. Est-ce qu'on est obligé d'aller aussi vite après? Oui, souvent, parce qu'il faut prendre une décision très, très rapide. En fin de semaine, il y a encore des propriétés. Là, nous, on visite aussi avec des acheteurs. Puis les visites, c'est aux 15 minutes. On a 15 minutes pour se faire une idée de la maison, pour tout regarder. Et par la suite, ben, les promesses d'achat sont présentées normalement le lundi ou quelques temps après, à peine là, après la visite. Donc, ça laisse très peu de temps pour réfléchir, pour comparer. Tu sais, Jeffrey, avant, il y a quelques années, là, on visitait quelques maisons avant de faire une promesse d'achat. On avait une idée, on pouvait comparer des produits. En ce moment, c'est sûr qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de réagir. Donc, c'est important d'être bien accompagné avec des gens qui connaissent ça, parce qu'il y a des choses qu'un œil avisé va pouvoir voir en 15 minutes. Là.
Donc, m'a donné un exemple bien concret. Là. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement nous avait fait un conseil au début. Quand vous allez dans un commerce, achetez-en pour la peine. Comme ça, vous ne retournez pas immédiatement. Puis, je vais te donner l'exemple de la SAQ. Donc, pour une caisse de 12 bouteilles de vin, ça peut me prendre à peu près une heure. Je veux faire une sélection qui a de l'allure, un processus de prise de décision rationnelle. Je lis, je vais voir les reviews sur Internet.
Le taux de sucre.
Et le taux de sucre, tout ça. Donc, pour une caisse de 12 bouteilles de vin, on prend plus de temps que pour acheter une maison. Puis là, pourtant, on n'achète pas un paquet de gomme, là. C'est une maison, c'est un des plus gros investissements dans une vie.
Si c'est pas le plus gros investissement de notre vie, puis qu'on pense aux premiers acheteurs, encore une fois, on a une pensée pour eux, c'est pas facile. Donc, non seulement la visite, ben il faut réserver la visite rapidement. Tout se fait rapidement en ce moment. Si on a un œil sur une maison, on se dépêche, faut réserver la plage horaire parce que ça se remplit très, très rapidement. Des visites aux 15 minutes, ça se fait vite parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend, étant donné la COVID, on prend toutes les précautions. On peut pas être plusieurs à visiter la propriété en même temps. Contrairement à auparavant, quand il y avait des visites libres, on pouvait être plusieurs dans la propriété en même temps, mais là, pandémie oblige, on fait très, très attention. Donc, 15 minutes pour regarder. 15 minutes pour voir, premièrement, si elle nous plaît. Ça peut se faire très rapidement. On le sait en entrant dans une maison, c'est trop petit ou l'air ouverte, bon, est pas assez grande. Il y a des choses qu'on peut voir, mais est-ce qu'on peut voir, par exemple, est-ce qu'il y a des signes d'humidité? Est-ce qu'il y a des fissures au plafond? Il y a des choses qu'un œil avisé va voir rapidement, mais pour les gens qui connaissent pas trop ça, ça va être plus long, là.
C'est des de quoi a l'air le quartier, le bruit à l'extérieur, comment ça se passe?
Bien, ça, au moins, on peut rester dehors. Ça, au moins, moi, j'invite toujours les gens, même avant de faire une visite, des gens qui ne connaissent pas un secteur. S'il y a un enjeu, exemple, la maison est sur une rue passante, elle est super belle, mais il y a plein de circulation, bien, allez vous promener dans le secteur avant qu'on demande une visite, parce qu'on ne perdra pas de temps à aller faire une visite inutile en pleine pandémie. Aussi, ça fait sauver de l'énergie aux acheteurs aussi. Donc, on regarde, moi, quand je visite avec des acheteurs, on va regarder les signes, là, des signes évidents de problèmes, là. S'il y en a pas, puis que les gens aiment la maison, ils veulent faire une offre, ben, écoutez, on y va comme ça. On y va comme ça. Par la suite, ben, on a une journée ou deux maximum, des fois, pour faire une offre d'achat. Donc, les gens peuvent à peine dormir dessus. Et ça, c'est quand ils ont le temps de dormir dessus. Et là, faut préparer l'offre. Faut qu'ils déterminent rapidement comment ils vont réagir. Nous, on les avise. Ben, écoute, on est rendu à 10 promesses d'achat. Est-ce que tu veux bonifier ta promesse d'achat? Ou tu veux conserver le prix initial? Ce sont toutes de grosses décisions qu'on prend très rapidement et c'est pas tout le monde là, qui est familier avec le domaine de l'immobilier, donc ça peut faire peur. Il y en a qui vont vite, qui prennent des décisions rapides et là, qui se rendent compte par la suite, ouais, est-ce que j'aurais pu en trouver une maison mieux que ça, tu sais, on a acheté il y a quelque temps, puis là, bon, j'en ai vu une autre. Tu sais, bon, il y a toutes sortes de questionnements qui peuvent se soulever par la suite. Une fois que la décision est prise, qu'on a réussi à l'emporter, ben là, la suite, ben on peut plus changer, on peut plus se retirer d'un contrat de promesse d'achat.
C'est important, c'est important. Il y a aucune exception.
Non.
Avec laquelle tu pourrais te retirer d'un contrat, d'une promesse d'achat.
À part les conditions qui ont été établies au départ. Donc, si, Jeffrey, tu fais une promesse d'achat qui est conditionnelle, par exemple, à l'obtention de ton financement hypothécaire et conditionnelle à une inspection, par exemple. Ce sont les deux seules conditions qui te permettent de sortir de la promesse d'achat. Donc, si elle est acceptée par le vendeur, tout le monde était d'accord à la base, mais par exemple, tu n'as pas ton financement, la banque ne finance pas ton achat. Ça, c'est un moyen de se sortir sortir. En fait, c'est pas un moyen de se sortir, c'est qu'on vous sort, on vous sort
par défaut.
Défaut. Et à l'inspection, ben écoutez, c'est sûr que bon, s'il y a une prise électrique qui fonctionne pas, puis un robinet qui ferme mal, ben c'est pas des raisons pour se retirer d'une promesse d'achat.
Ça prend quelque chose de majeur.
Quand même, ça prend quelque chose d'important ou une accumulation de choses qui font que vous n'avez plus confiance en la maison. Mais vous pouvez pas dire là une maison où tout est en ordre puis qu'il y a un ou deux trucs là normaux qui vont avec l'âge de la propriété. Vous pouvez pas dire ben là moi je me retire parce que ça j'ai. En théorie, malheureusement, il y a quand même un flou de ce côté-là. Vous pouvez vous sortir d'une inspection, mais ça prend quand même des motifs. Ça prend, s'il y a rien du tout dans le rapport de l'inspecteur, vous pouvez pas commencer à dire, ben moi je m'en sors parce que il y a une prise électrique qui fonctionne pas. Ça prend des raisons valables. Alors une fois que toutes les conditions de la promesse d'achat sont réalisées, vous ne pouvez plus changer d'idée. Vous pouvez plus dire, ben finalement je l'ai trouvé une plus belle, j'aimerais mieux aller avec elle. Non. Non, c'est comme ça, c'est un contrat officiel, légal, et vous devez l'honorer jusqu'au bout.
Et comme courtière là, qui vit ce qui se passe, là, le phénomène actuel qu'on observe, rappelons-le, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, aux États-Unis, on a des bons exemples, en Australie, par exemple, il y a la surenchère, il y a le phénomène d'exode des grandes villes. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens là, où, dans un marché où ça va trop vite, on peut le dire comme ça, pour ne pas avoir de regrets?
Premièrement, d'être informé. Quand on connaît ce qu'on fait, quand on sait ce qu'on fait, on a de l'information, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des recherches, à vraiment être informé, à avoir votre pré-approbation. Faites-vous accompagner. Oui, je suis courtier immobilier. Il faut vous faire accompagner par un courtier dans ce marché actuel pour pas avoir de mauvaises surprises. Cette personne-là, là, vous pouvez adopter un courtier immobilier. Des fois, je dis ça, mais tu sais, vous pouvez vraiment vous faire accompagner dans chacune de vos visites. Puis cette personne-là, l'expertise pour vous dire, écoute, il y a telle nuance ici, il y a telle chose, regardez, bon, là, il y a de l'efflorescence au sous-sol, peut-être que le drain français ne fonctionne plus. Tu sais, il y a des signes d'usure d'une maison que, tu sais, le commun des mortels ne va pas nécessairement voir, mais un courtier en visite beaucoup. Alors, être accompagné, être informé et se préparer. Donc, quand vous allez voir une propriété, là, allez-y pas juste au regard. Lisez l'affiche sur Centris. Lisez les informations et demandez la déclaration du vendeur au courtier avant d'aller visiter. Donc, vous étudiez tout ça, là. Bon, l'année de la toiture, l'année de plusieurs items. Si tout est à refaire dans 2 ans, est-ce que c'est un bon achat, finalement? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Faut se préparer. C'est ça le secret dans une visite de 15 minutes. Vous pouvez pas toutes poser vos questions sur place. On n'a pas le temps, malheureusement. Mais préparez-vous, posez vos questions avant d'y aller. C'est le meilleur truc que je peux donner. Puis par la suite, sur place, vous ne faites que constater. Faites-vous des points importants à observer, les fissures, les problématiques qui peuvent avoir l'air majeures. Est-ce qu'il y a des signes d'humidité? Est-ce que ça sent mauvais dans la maison? Il y a certaines choses qu'on peut repérer très rapidement. Puis le reste, ben c'est sûr qu'on recommande toujours de faire inspecter, surtout lorsqu'on visite une quinzaine de minutes. Il y en a encore, Jeffrey, qui décident de ne pas faire inspecter leur propriété pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a des gens qui ont déjà eu plusieurs résidences, qui sont plus à l'aise et puis qui se disent « moi, j'assume ce risque-là », mais il faut vraiment que les gens soient informés. Et j'en vois de moins en moins qui ne font pas inspecter. Ça a été plus courant au cours de l'hiver. Lorsqu'on voit, sur exemple, une vingtaine de promesses d'achat, il y en a peut-être un ou deux qui ne fait pas inspecter. Donc, c'est pas la majorité.
Pour essayer d'être plus attrayant aux yeux du vendeur, évidemment.
Effectivement.
Et là, ce qu'on doit regarder là, dans les maisons, beaucoup de maisons des années 70, 80, 90, bref, on a des vieilles maisons, c'est normal, c'est un bien qui est durable. Le chauffe-eau est-il à changer? A-t-il été changé? Ouais, je commence avec des trucs quand même mineurs.
Oui.
Mais la toiture.
La toiture, c'est important.
Plus important. Oui. La fenestration.
Aussi, c'est sûr que si toutes les fenêtres sont à changer, à un moment donné, c'est une dépense importante. Mais peut-être que vous pouvez faire le calcul aussi dans le prix offert. C'est juste qu'en ce moment, on peut pas trop négocier. C'est ça qui arrive. Mais on s'imagine que la propriété a été affichée en conséquence aussi. Le prix de départ va tenir compte du fait que les fenêtres sont à refaire, la toiture est due.
Ah, l'autre affaire, la fondation. Ça, c'est important, la fondation.
Oui, c'est important, les fissures, mais encore là, Jeffrey, les fissures, ça fait vraiment peur, OK, pour le commun des mortels, mais ça se répare. Ça se règle, un problème de fissure, à moins que vous ayez des problèmes plus graves. Bon, que je pense en Mauricie, il y a de la pyrotite, là, on n'est pas là, là, tu sais, ou la dalle, ça, c'est important, la pyrite aussi, pour la pierre de remblai dans la maison. Est-ce qu'il y a un test de pyrite qui a été fait sur la propriété des années 70? Ça, c'est important, même pour les années subséquentes, là, c'est bon de le savoir. dehors parce que ça peut faire bouger la dalle. Il y a des choses comme ça qu'on peut avoir comme information avant de visiter pour bien se protéger. Mais s'il y a des fissures, tout dépendant du type de fissure, je parlais à un expert en fondation justement récemment, il dit, écoute, les gens ont vraiment peur des fissures, mais des fois, tu vois une fissure qui est très large, qui est plus inoffensive qu'une petite fissure mal placée, oui, qui sous-tend un problème de structure plus grave et un mouvement de sol. Donc, ça, c'est quand même des choses importantes à surveiller, effectivement.
Donc, avez-vous peur d'aller trop vite en affaires dans le marché actuel? Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. 1-866-790-9850. Nous sommes diffusés dans le Grand Montréal, en Outaouais, en Ontario aussi, via le 104.7. Et à 11h15, Caroline est là. Bonjour, Caroline.
Bonjour. Moi, j'appelle pour vous expliquer ma situation. J'étais curieuse de savoir ce qui était possible de faire dans ma situation. Moi, je suis la celle qui a vendu sa maison. Donc, les gens, j'ai livré ma maison pour le mois de juin. Ce qui arrive, c'est que quand les acheteurs ont fait faire une inspection, et suite à l'inspection, il y avait comme trois conditions, comme vous venez de parler. Il y avait le chauffe-eau à changer, quelques fissures au solage comme à réparer et un petit trou dans le garage à plâtrer. Donc, on a fait venir un expert en avec le solage, les fissures. Et tout ce qu'il nous disait, c'était il n'y a aucun besoin. Les fissures, c'est des millimètres. Là, c'est aucun besoin de faire réparer des fissures ici. Mm-hmm. Fait que j'ai fait faire un rapport d'expertise par lui. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était les trois conditions à remplir où les acheteurs retenaient 3 500, fallait donner 3 500 à l'avance, dans, oui, le fond. Soit qu'on répare ou on répare pas. Donc, fait que là, mon questionnement, c'est, là, j'ai pas de retour des acheteurs, c'est, est-ce que j'ai, tu sais, vu que l'expert a dit que c'était pas nécessaire, est-ce que moi, j'ai des droits ou c'est comme, on s'est engagé à tout réparer ou est-ce qu'on a des droits vu que l'expert a dit que c'est pas nécessaire, dans le fond?
Vous êtes à quel stade de la transaction? Dans le fond, tout est réglé. Vous avez signé
tout
un document.
En attente de livraison au mois de juin, dans le fond.
OK, parfait. Donc, à ce moment-là, la première chose, c'est d'informer les acheteurs. T'sais, c'est sûr qu'un expert en fissure qui vient écrire, parce que c'est pas nécessaire de réparer toutes les fissures. Parce que quand ça coule pas, quand il n'y a pas de signe de problème.
Non, il n'y en a pas.
C'est ça. Ben, ça se peut qu'un expert en fissure dise qu'il n'y en a pas de problème. Moi, je vous suggère, le plus vite possible d'informer les acheteurs de cette situation-là. Est-ce que vous avez des courtiers au dossier?
Okay.
Vous n'avez pas de retour. Est-ce que vous avez des courtiers immobiliers au dossier?
Oui, mon courtier a l'air de dire « t'es engagé à le faire, c'est sûr que vous retenez 3 500 ou je suis un petit peu déçue, là, je ne veux pas… »
OK. je veux pas contredire, mais écoutez, ouais, c'est sûr, je connais pas votre entente. Ce que je ferais personnellement dans un dossier comme ça, effectivement, on essaie de parler aux acheteurs puis de dire, écoutez, on a un rapport qui nous dit qu'on n'a pas besoin de réparer les fissures. Moi, j'ai déjà vu ça souvent. C'est pas nécessaire de toutes les réparer. Peut-être qu'eux aussi pourraient faire venir un expert de leur choix pour faire vérifier les fissures. Peut-être que, à ce moment-là, ils en auraient le cœur net. Un deuxième avis pourrait peut-être venir appuyer le premier. Moi, je pense à ça. Je me dis, au moins, il y aurait un autre rapport, peut-être, qui viendrait dire la même chose. Mais c'est clair, Caroline, que quand vous prévoyez une retenue chez le notaire, ça veut dire que quand vous faites pas les travaux, cet argent-là, je sais pas comment cette clause-là est écrite dans votre contrat, là, mais généralement, c'est de l'argent qui est remis aux acheteurs si ce n'est pas fait pour qu'eux puissent faire les travaux, effectivement. Donc,
on a un expert qui nous dit qu'on n'a pas besoin de les faire. Si, par exemple, l'acheteur, Mélanie, oui, puis Caroline, dit « je veux mettre mon expert là-dedans oui. », donc un expert indépendant à ce moment-là, qui va le payer? Est-ce que c'est l'acheteur ou c'est le vendeur?
Mais pour faire des soumissions, ça ne veut pas dire qu'il y aura des frais à ce moment-là. Il y a des gens qui peuvent aller sur place, qui ne vont pas facturer pour une soumission. Ça dépend. Ou des fois, c'est un coût moindre. Mais moi, c'est ce que je proposerais. Mais avant tout, il faut communiquer à l'acheteur cette information-là, Caroline, parce que peut-être, tout dépend des acheteurs. Il est en droit d'exiger le 3 500 $ parce que c'est une entente que vous avez eue, puis il est en droit de demander de réparer les fissures. Mais c'est clair que si un expert dit qu'on n'a pas besoin de le faire, pour les rassurer, moi, je leur proposerais, écoutez, faites venir un autre expert, puis on verra ce qu'il va dire. Moi, c'est comme ça, tant qu'à perdre 3 500 $, j'irai un petit peu plus loin dans la démarche, si c'était moi.
OK, mais c'est juste curieux de savoir, si mettons un expert neutre venir dire non, il n'y a pas de besoin, est-ce que le 3 500 est renégociable? C'est quelque chose qui est possible. C'est le montant du dire, là, est-ce que ça vaut plus de 3 500 de retenue? Est-ce qu'on peut dire 1 500, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est un droit qu'on aurait? Si les deux côtés sont d'accord?
Si les deux s'entendent, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut que les deux s'entendent.
Bon, ben, bonne chance, Caroline.
Je vous souhaite bonne chance, effectivement.
Et vous pouvez nous texter aussi 98985. On vous pose ce matin la question, avez-vous peur d'aller trop vite en affaires dans le marché actuel? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Les dessous de l'immobilier jusqu'à midi. On revient après ceci.